Alors, deuxième date importante pour Marx, c'est 1871. On est une dizaine d'années avant la mort de Marx. Et évidemment, c'est la Commune de Paris sur laquelle Marx va écrire. Mais avant qu'il écrive dessus, déjà, il y a des journaux et les autorités policières qui font de Marx l'instigateur, l'homme derrière la Commune. À l'époque, ce serait Marx.
Oui, Marx a toujours intéressé la police, mais à partir des années 60, même si il n'est plus en France, hein, il vit en Angleterre, il reste quand même un personnage important jusqu'en France parce qu'il est, sinon le chef, en tout cas l'animateur ou l'un des principaux animateurs de l'Internationale, la Première Internationale, l'Association Internationale des Travailleurs, donc qui est l'organisation qui, notamment aux yeux des autorités, incarne le mouvement ouvrier et socialiste qui est en train de monter. Et donc, évidemment, ça nourrit toutes sortes de fantasmes. Et beaucoup vont penser, au moment où la Commune se déclenche, et elle se déclenche à distance de Marx et sans qu'il y prenne part, bien sûr, mais beaucoup vont penser qu'il y a la main de Marx et la main de l'Internationale derrière la Commune.
Alors que Marx n'est pas encore une figure très populaire en France à l'époque.
Non, il n'est pas extrêmement connu. Il va commencer à l'être, en fait, dans le début des années 70, à la fois avec cet épisode de la Commune et puis avec la traduction en français du premier livre du Capital, qui va l'installer, disons, comme une personnalité très importante et un grand théoricien du socialisme et du communisme.
Et ce qu'il fait notamment connaître, c'est sa réaction à la Commune de Paris, un petit opuscule qui publie et qui s'appelle « La guerre civile en France ».
Voilà, donc pour défendre la Commune, pour dissiper un certain nombre de rumeurs et de ragots qui courent sur son compte, il va écrire un petit texte qui est probablement un de ses plus beaux textes, qui s'appelle « La guerre civile en France », que Marx écrit pour le compte de l'Association internationale des travailleurs, et où Marx va à la fois flétrir les ennemis de la Commune et défendre la Commune et en même temps vraiment faire l'éloge de la Commune qui est quelque chose qu'il n'avait pas prévu, qui est une réalité politique tout à fait neuve et surprenante à ses yeux et où il voit à la fois une réponse à un certain nombre de questions qu'il se posait et puis une véritable promesse d'avenir. Même s'il il lui arrive d'être critique, c'est-à-dire il perçoit aussi un certain nombre de limites de la Commune, mais c'est un texte en défense de la Commune qui paraît d'ailleurs très peu de temps après l'écrasement du mouvement.
Juste après la semaine sanglante. Voilà. Avant de se quitter, Anthony Burlot, il faudra quand même dire s'il faut lire encore Marx aujourd'hui. À quoi ça sert de lire Marx aujourd'hui, puisque voilà, on vient de le dire, son travail, ses écrits, quand même datent de à peu près 150 ans. Et force est de constater que les formes du travail et du capital ont évolué depuis, notamment avec, pour ce qui concerne le travail, l'irruption du numérique, la robotisation, on assiste à un travail de plus en plus émietté, éclaté, atomisé, avec en tout cas de moins en moins de lieux ou d'usines dans lesquels il y a énormément de travailleurs qui viennent vendre leur force de travail. Et ce qui peut poser d'ailleurs parfois problème aux centrales syndicales pour mobiliser les travailleurs. Et puis d'autre part, un capital aussi qui s'est énormément internationalisé, financiarisé. Voilà, les choses ont quand même évolué depuis Marx. Mais est-ce que son travail est toujours pertinent aujourd'hui ?
Je crois qu'il y a...
Vaste question.
Oui, c'est compliqué de répondre à cette question. Je crois qu'il y a deux manières assez courantes de se débarrasser de Marx et de ce qu'il a pu dire. La première, elle est bien connue et je pense qu'elle est un peu usée, c'est de faire l'équation Marx égale Lénine égale Staline égale Pol Pot égale Goulag. Bon, ça, je pense que c'est une opération intellectuelle qui fonctionne un peu moins. Et l'autre manière de se débarrasser de Marx, ça consiste à dire, bon, Marx est un auteur remarquable, il dit des choses très intéressantes sur la société de son temps, mais fondamentalement, c'est un homme du 19e siècle, il n'a pas énormément de choses à dire sur notre 21e siècle. Et bon, on peut continuer à l'étudier, mais il faut l'étudier comme on étudie Platon ou Pascal.
Mmh.
Il est bien évident qu'il y a dans la pensée de Marx et dans l'œuvre très foisonnante de Marx, parce que c'est des dizaines de volumes, hein, l'œuvre de Marx, il y a dans la pensée de Marx tout un tas d'éléments datés, et donc on a absolument un droit d'inventaire comme par rapport à n'importe quelle œuvre intellectuelle humaine. Et il est bien évident que la critique est nécessaire et qu'il faut procéder de manière critique en corrigeant certaines choses, en mettant à jour certaines choses, en développant certaines choses son contenu que sous une forme très allusive, etc. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense parfois, toute la tradition la grande tradition intellectuelle marxiste, au XXe siècle, a procédé de cette façon-là. Ça n'a pas été simplement la répétition de la parole du maître. Ça a été toujours une mise à l'épreuve des idées de Marx, un travail de mise à jour, de complément, etc. Chez Rosa Luxembourg,
chez Gramsci, Lénine, que vous citiez.
Gramsci, Lukács, et tout un tas d'autres auteurs jusqu'à aujourd'hui. Donc, bien sûr, il y a des éléments datés, une nécessité de mise à jour, mais il y a aussi, je pense, un certain nombre d'éléments ou d'analyses qui restent tout à fait d'actualité, probablement même qu'il y a des analyses qui sont plus justes encore aujourd'hui qu'elles l'étaient quand Marx l'a écrit. Alors, on pourrait prendre beaucoup d'exemples, mais quand Marx explique, c'est déjà contenu dans le manifeste du Parti communiste, que la bourgeoisie et le capitalisme ont besoin toujours de conquérir de nouveaux espaces et de nouveaux marchés. C'est encore bien plus vrai dans notre économie mondialisée que ça l'était au milieu du 19e siècle.
Y compris nos données personnelles qu'on met librement sur les réseaux sociaux et qui sont marchandisées.
C'est encore un autre degré de la marchandisation. En ouverture du Capital, Marx explique que le monde se présente comme une gigantesque accumulation de marchandises. Donc, il commence son livre sur le règne et l'omniprésence de la marchandise. Il suffit de regarder autour de nous. La marchandise est encore bien plus omniprésente qu'elle l'était à l'époque. Et non seulement il y a beaucoup plus d'objets manufacturés, de marchandises, de choses qu'on peut acheter et qu'on achète, mais il y a de plus en plus de choses qui passent en régime marchand. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui, à l'époque de Marx, n'étaient pas marchandises et qui, aujourd'hui, le deviennent. Donc, d'une certaine façon, c'est encore plus vrai aujourd'hui.
Au pays de l'ardeur révolutionnaire, c'est votre article, Anthony Burlot, dans le Monde Diplo de ce mois. Et à la découverte, Marx, une passion française, dirigée par vous-même et Jean-Numa Ducange. Merci.
Merci.
Je voulais vous provoquer, mais en étant très sérieux, je dirais que l'un des livres les plus importants dans ma réflexion sur l'économie, ça a sans doute été Le Capital, de Karl Marx.
Sweat shop.